Vivre FM
Podcast. Midi 13h, Vivre FM, c'est vous.
Jean-Baptiste Bergès.
Dans Vivre FM, c'est vous, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Catherine Naïkoff. Catherine travaille autour de la question du handicap et des troubles psychiques au sein de nombreuses associations. Elle est aussi romancière et l'auteur d'ouvrages liés au handicap ou à la maladie. Son dernier roman s'intitule « La disparue » en hommage à Juliette Ropion, sa tante et marraine, à qui Catherine avait l'habitude de rendre visite, enfant à l'hôpital psychiatrique. On la disait schizophrène, et pourtant, si tout était faux. Dans cette enquête historique et littéraire, Catherine Naïkoff dénonce la pratique asilaire de l'époque et veut rendre hommage à son aïeule, une héroïne oubliée. Vivre FM, c'est vous, commence maintenant. Catherine Naïkoff, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Vivre FM.
Merci de m'accueillir.
Je suis ravi de vous accueillir et on va passer cette heure ensemble. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dans lesquels vous abordez la question du handicap et des troubles psychiques, des thèmes qui vous tiennent à cœur depuis de nombreuses années, puisque vous travaillez aussi au sein de nombreuses associations sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier livre. Il s'intitule « La disparue ». C'est publié aux éditions Michalon. Livre dans lequel vous rendez hommage à votre tante et marraine, Juliette Ropion. Vous dites une héroïne oubliée. Pourquoi une héroïne oubliée ?
Parce que elle a été un peu une martyre, hein, le mot est un peu fort, des idées reçues en ce qui concerne l'éducation des filles, la vertu des filles et aussi la façon dont on traitait les malades psychiques à l'époque. Donc elle n'a pas fait de choses extraordinaires, hein, sauf qu'elle a milité pour l'accès des filles aux études secondaires. Elle s'y est usée, puisqu'à l'époque, les filles n'allaient pas au collège ni au lycée. Elles partaient à l'usine où elles se mariaient, voilà, dès l'âge de 14 ans. Donc, en ce sens, elle a été une héroïne, mais c'était une petite chose. Ce qui fait d'elle une héroïne, c'est son destin tragique, hein, c'est le fait que sa vie se soit interrompue à 40 ans. Parce qu'elle a été internée et qu'elle ne s'en est jamais remise. Est-ce que ça répond à votre question ?
Mais évidemment, c'est son destin, ce que vous racontez, a été bouleversé par l'approche qu'ont eu son entourage sur sa maladie. On la disait malade, schizophrène même.
Oui.
Et c'est ça que vous racontez dans ce livre. Vous êtes reparti un petit peu comme une sorte d'enquête pour essayer de comprendre si toutes les idées reçues qu'on vous avait racontées étaient véridiques, c'est ça ?
Oui, il y a une bonne partie de ça. Je vais reprendre l'histoire au début. J'ai visité ma tante et marraine, Juliette, à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche dans mon enfance. J'ai pu retrouver qu'en fait, c'était de 1954 à 1960, j'avais 5 ans. L'hôpital psychiatrique m'a beaucoup marquée. Ça m'a beaucoup impressionnée. Je n'ai pas eu tellement l'impression que ma parente souffrait de maladie. Bon, elle était un peu renfermée, un peu bizarre, on est d'accord. Mais elle était tout à fait agréable à vivre. En revanche, l'hôpital psychiatrique m'est apparu concentrationnaire, violent. Et très jeune, j'ai eu cette idée que c'était un endroit où on pouvait plutôt perdre la raison que la recouvrer. Ce que j'ai retrouvé après sous la plume de psychiatre prestigieux, d'ailleurs.
Déjà enfant, vous aviez conscience
de ça ? Oui, tout à fait. C'est vraiment une idée qui m'est restée, que ça avait gâché sa vie. Et quand je me souviens, j'étais jeune quand c'est arrivé, je devais avoir 7 ans quand on l'a passé du pavillon 3 au pavillon 4, parce que soi-disant son état s'était aggravé, on découvrira plus tard qu'en fait c'est autre chose. Eh bien, je me suis dit, mais c'est bien normal. Moi, si on enferme quelqu'un de Saint-Esprit dans un endroit comme ça, il est normal que sa santé mentale se détériore tout de suite.
Donc vous avez plutôt l'impression qu'on l'a torturée là où elle était ? Le mot est trop fort ou...
C'était pas une torture, c'est vraiment... On est dans une situation concentrationnaire. On a 30 ou X femmes, après tout ça a duré 6 ans et le nombre a varié, enfermées dans un dortoir, 24 heures sur 24, avec le droit de sortir dans une petite cour qui est, allez, on va dire, soyons généreux, deux fois plus grande que cette pièce, hein, avec des grilles autour, et c'est tout. En prison, les détenus ont droit à la promenade. Même ça, elles n'avaient pas droit. Elles n'avaient pas le droit de porter leurs vêtements. Elles étaient vêtues d'uniformes, des uniformes anachroniques qui les feraient automatiquement remarquer à l'extérieur. Elles avaient des vêtements rayés bleu et blanc, vous savez, comme dans les camps nazis, comme on voit au bagnard sur les caricatures des années 50.
Et qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'est-ce que votre entourage vous disait sur elle, sur son état, quand vous étiez petite, justement?
Très peu de choses. Hein. Déjà, à l'époque, on n'en parlait pas. J'ai grandi dans une famille sévère et sous des couches de silence. Hein. Et on ne pose pas de questions. C'était un peu ça la règle à la maison. Un jour, je me rappelle de Juliette, que j'avais oubliée parce que c'était un mauvais souvenir et parce que dans la famille, c'était un sujet tabou. Juliette a été quand même un sujet sur lequel on a accepté de me répondre un petit peu, mais très peu, voilà. Et je me suis sentie prise de remords, comme si je l'avais reniée. Et j'ai décidé de retrouver l'histoire de sa vie et de l'écrire, dans un même temps. Je suis auteur quand même. Et donc, j'ai fait toutes sortes de recherches pour retrouver son histoire, pour retrouver les documents médicaux, en particulier le dossier médical. Ce qui fait que ce livre est construit un peu comme un roman policier. On avance dans la connaissance de Juliette, de son univers, voilà, de sa maladie, de l'hôpital psychiatrique. On avance peu à peu jusqu'à ce qu'on ait toutes les cartes en main, que toutes les pièces du puzzle soient assemblées et qu'on puisse vraiment tout comprendre.
Et en fait, on suit ce que vous avez vécu parce que vous avez mené une réelle enquête pour arriver
complètement, là. Complètement. Pendant 2 ans, j'ai été vraiment très obstinée.
Alors, par où vous avez commencé justement pour cette enquête?
Eh bien, c'est ça qui est amusant. J'ai commencé par aller voir une amie psychiatre qui s'est montrée pleine de bonne volonté, mais qui n'était pas habituée à être questionnée sur une histoire aussi ancienne, qui n'avait pas de relation dans les archives psychiatriques et qui, ayant appris donc, que Juliette était née en Indochine, m'a conseillé de lire Marguerite Duras. J'avoue que sur le moment, je trouvais que ça ne répondait pas du tout à ma question. Et puis, je me suis rappelé les descriptions que faisait Marguerite Duras dans L'amant de Seygon. Et je les avais trouvées bien. Hein. Je trouvais que Duras s'était bien documenté sur le sujet. Je n'avais pas du tout intégré qu'elle y avait vécu. Mais ça me rappelait bien les récits de ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui était rentrée en France en 1935, après, je ne sais pas, 25 années d'Indochine. C'était la grande aventure de sa vie. Elle en parlait tout le temps quand j'étais à la colonie. Et elle racontait. Donc, effectivement, j'avais bien retrouvé l'écho. Et du coup, je suis allée voir un peu quelle avait été la vie de Marguerite. Et c'est là que j'ai découvert la similitude. Les deux jeunes femmes sont nées toutes les deux à Seygon en 1914. Leur mère était institutrice. Quelle coïncidence.
Et elles se connaissaient?
Mais oui, et j'ai découvert que nécessairement elles s'étaient connues puisqu'elles étaient allées au même lycée à la même période et je ne savais pas jusqu'à quel point elles avaient pu être amies. J'ai relu Duras évidemment avec bonheur et j'ai eu l'intuition que Juliette avait inspiré le personnage d'Hélène Dagonal dans L'amant. Quand je dis inspirer, j'ai écrit contribuer à, parce que la jeunesse des personnages, c'est quelque chose de complexe. Hein. L'amant est une œuvre littéraire, ce n'est pas une autobiographie de Marguerite. Et Marguerite est un très grand écrivain, donc elle sait vraiment amener les personnages, voilà, les faire évoluer hein, avec beaucoup de nuances. Donc ce n'est pas une décalque hein, de Juliette. Mais quand même, il y a plein de petites choses dans sa façon d'être, dans son physique. Et cette hypothèse, bien, je l'ai à peu près validée par la suite, puisque j'ai fait d'autres trouvailles.
C'est drôle de coïncidence. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vous êtes rendu compte justement de cette vie que vous ne connaissiez pas sur votre marraine, cette partie de la vie?
Je ne connaissais rien de sa vie. Rien, mais vraiment rien. Je savais qu'elle avait une licence de philosophie et qu'elle avait été conseillère d'orientation professionnelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour aider les femmes justement à accéder aux études. Ça, je savais, c'était tout. Voilà. Et personne n'a jamais fait le rapprochement. Je veux dire, ma famille, toute petite, hein, n'a jamais fait le rapprochement entre la Marguerite Donadieu, qu'ils ont probablement connue, et Marguerite Duras, qui émerge en 1954 avec un autre nom, et qu'ils n'ont pas lu, il n'y a que moi. Et de l'autre côté, je pense que Marguerite, d'abord, bon, Marguerite s'en fichait quand même des gens, elle les utilisait à son profit. Bon, c'était pas quelqu'un de gentil, c'était une femme d'un talent extraordinaire. Voilà, mais elle a plutôt fait du mal à tous les gens qu'elle a côtoyés.
Elle nourrissait ses romans.
Elle nourrissait ses romans et elle les prenait, comme elle a probablement pris Juliette, comme des confidentes. Parce que, je vais revenir à un point que j'ai établi au début de cette histoire, Juliette avait un tempérament particulièrement réservé. Vous savez, on aime bien dire d'un homme que c'est un taiseux. Quand on dit un taiseux, c'est plutôt positif. Bon, quand on dit une taiseuse, une introvertie, déjà, c'est beaucoup moins bien perçu. Mais c'était son cas. C'est ce qu'on appelle une personnalité schizoïde. J'ai trouvé une très belle définition dans un bouquin de Christophe André. Et on retrouve toutes les caractéristiques de Juliette. Parce que ma mère, sa sœur, disait « mais elle a toujours été comme ça » pour qualifier son comportement quand elle était à l'asile. Donc, ça pose toute la question de savoir si elle était vraiment malade ou pas, à laquelle on répond à la fin du livre.
Mais vous avez essayé de comprendre comment elle était avant d'être internée à l'asile.
Absolument. Je me suis dit, elle est entrée, elle avait 40 ans, je ne sais rien de ses 40 années, elle a eu une vie avant la maladie mentale. C'est ça qui m'intéresse. Je ne voulais pas, mais ça c'est une démarche vraiment personnelle qui m'est chère, je ne voulais pas qu'elle reste dans ma mémoire et celle de ma famille comme la malade mentale. C'est Juliette avec ce qu'elle a vraiment été, sa personne en entier. Et ça, c'est vrai pour toutes les personnes handicapées. On ne désigne pas une personne en disant le trisomique. Voilà, c'est Antoine ou c'est Bruno, mais avec ses particularités auxquelles il a droit.
Vous aviez du coup envie de lui rendre hommage à travers ce livre, c'est ça ?
Oui. Et puis, mais ça m'a aussi libérée parce que j'avais en partie intégré tous ces discours des psychiatres, des pseudo-savants, comme quoi elle était malade. J'y croyais, moi, à cette maladie.
Alors, Catherine Naïkoff, on continue de parler de ce livre qui s'intitule « La disparue » et de votre marraine et de cette enquête que vous avez menée justement pour arriver à publier ce roman. On marque juste une courte pause musicale et on revient juste après.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
Catherine Naïkoff est toujours notre invitée sur Vivre FM jusqu'à 13h. Vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, il s'intitule « La disparue », publié chez Michalon Éditions, livre dans lequel vous rendez hommage à votre tante et marraine Juliette Ropion. C'est un récit mais qui se lit vraiment comme un roman et même une enquête un petit peu policière, puisque vous avez vraiment mené une enquête pour rendre hommage à votre aïeule et essayer de comprendre qui elle était. C'est une dame qu'on a longtemps dit malade, schizophrène. Vous avez un vague souvenir d'enfant, mais vous ne saviez pas vraiment qui elle était. Et vous avez mené de nombreuses recherches pour ça, 2 ans de recherche, c'est ça ?
Alors 2 ans de recherche dans le récit. Ça a été condensé un petit peu, on n'a pas l'impression que ça prend autant de temps, mais oui, ça a pris 2 ans. En fait, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait que des photos. Il y avait beaucoup de photos. Je n'avais même pas son acte de naissance. Or, pour entreprendre la moindre démarche, pour justifier auprès d'un hôpital qu'on demande un dossier médical, il faut justifier qu'on est parents. Il fallait que je montre qu'elle était ma tante et ma marraine. Rien que de retrouver les papiers d'état civil, ça a déjà été
C'était un parcours du combattant, j'imagine.
Et quasi miraculeux, puisqu'en fait, je n'ai pas le droit de l'avoir, cet acte de naissance. Comme elle est née au Vietnam, aujourd'hui, son acte d'état civil est à Nantes, au service des Français nés à l'étranger, et seuls ses descendants directs y ont droit. Et elle n'a pas eu d'enfant. Donc mais comme on ne peut pas téléphoner à Nantes pour essayer de s'expliquer avec les services d'état civil, j'ai fait la demande par Internet, et j'ai rempli plein de formulaires, et un jour, le certificat est arrivé. C'est miraculeux. Bon, voilà.
Ça vous fait rire avec le recul, parce que ça a dû être compliqué quand même.
Oui, d'autant plus que j'ai eu des démêlés aussi avec l'Église pour essayer de retrouver mon certificat de baptême. Voilà, aussi, j'ai fini par l'avoir, et puis, mais j'ai commencé à envoyer des courriers aux hôpitaux et tout. Alors, à chaque fois, on me disait « écrivez ». Alors, j'écrivais, j'attendais les réponses, puis je laissais gentiment passer les délais. On me dit « on vous délai de 2 mois ». Bon, donc, moi, à la fin des 2 mois, je me disais « faut être gentil, faut pas les presser ». Donc, j'attendais 2 mois et demi. En fait, ça faisait longtemps qu'ils savaient qu'ils allaient rien faire, quoi.
Alors, vous nous avez raconté tout à l'heure que un petit peu la personnalité de votre tante, c'était une personne très introvertie,
oui.
Apparemment assez incomprise par son entourage familial.
Je ne sais pas, je pense que son entourage familial s'était adapté à sa façon d'être. Ce n'est pas sa famille qui l'a fait interner. Tout est là, sa famille n'a pas remarqué sa maladie mentale. C'est extraordinaire quand même. Bon, donc je reprends le parcours de Juliette, donc... En 1933, elle passe le bac, elle devient infirmière. dans un établissement qui soignait des orphelines, des lépreuses. Ça s'appelait la Sainte Enfance et ça dépendait des sœurs de Saint-Paul de Chartres, qui sont très réputées. En 1935, ses parents la ramènent en France, elle n'est pas majeure. Donc on ne lui demande pas son avis, tout comme on lui a refusé d'épouser un homme avec qui elle était fiancée. À l'époque, les filles ne faisaient vraiment pas ce qu'elles voulaient. Et donc, en 1935, la voilà qui est ramenée en France. Elle demande à faire des études. Elle a sans doute beaucoup insisté pour ça. Et c'est sans doute là que Marguerite a joué son rôle. Parce que Marguerite, elle, partait à vivre une vie joyeuse et faire une licence de droit, une licence de sciences, etc. Et je pense que Juliette était sa seule confidente. Les personnalités schizoïdes offrent de bonnes oreilles aux gens qui ont envie de s'épancher. Et dans cette classe où il y avait des filles de colons, donc des gens qui vraiment étaient là pour faire des affaires, des gens fortunés, elles étaient les deux seuls enfants de fonctionnaires. Je pense donc qu'elles avaient un lien privilégié et je pense que tout ce que Marguerite a raconté a donné vraiment envie à Juliette de faire quelque chose de grand dans sa vie, de faire des études, de jouer un rôle. Et qu'elle s'y est épuisée, parce qu'elle était quand même fragile, malgré tout.
Et on l'aurait peut-être empêché de vivre sa vie ? On ne sait pas.
On ne sait pas. Moi, je pense qu'elle s'était bien habituée à être infirmière en Indochine, là-bas, qu'elle avait noué des liens, et que peut-être elle aurait voulu rester, et qu'on ne lui a pas demandé son avis non plus. Donc elle rentre en France, elle fait des études de philosophie, elle entre à l'école des conseillers d'orientation professionnelle à Clermont-Ferrand. Elle en sort dans un bon rang, d'ailleurs, et elle commence à exercer. Là, elle se promène à travers la France. Elle va à Grenoble, à Bègle, à Saint-Étienne. Et finalement, elle vient à Paris en 48. Pourquoi elle vient à Paris ? Parce que le père est mort et ma grand-mère voudrait avoir toutes ses filles autour d'elle, ses deux filles, et ma mère, à l'époque, est fonctionnaire de la ville de Paris, et elle est enceinte. Bien. Donc, tout le monde se regroupe à Paris, et Juliette arrive, évidemment. Paris, elle ne l'obtient pas, elle est débutante. On l'envoie à Noisy-le-Sec. Vous savez, Noisy-le-Sec est la ville d'Île-de-France qui a subi les bombardements les plus violents de toute la région parisienne. Il y a eu 500 morts, et la moitié de la ville détruite, dans une attaque destinée à neutraliser la gare de triage en vue de la préparation du débarquement. Donc, quand Juliette arrive en 48, la ville n'est pas reconstruite. Tout le monde patauge dans les débris, la gadoue, il n'y a pas moyen de se loger. Donc, elle va travailler dans de mauvaises conditions. Tout ça, c'est bien décrit dans le livre. Mmh. C'est intéressant de suivre tout ça. Parce qu'il y a plein de petites histoires comme ça qui ne sont pas très connues.
Aussi, ouais,
il y a plein de retours dans l'histoire à travers ce naufrage en Méditerranée. C'est une histoire formidable que j'ai fini par retrouver.
Qui n'est pas le Titanic, mais...
Non, mais voilà. C'est intéressant quand même. Elle a aussi été témoin forcé de la pendaison d'un groupe de résistants à Voreppe en 1944. Hein. Donc elle a traversé le siècle et vécu bien des péripéties. Et donc elle se retrouve là-bas, à Noisy-le-Sec, logée loin, dans des locaux insalubres, avec une supérieure hiérarchique qui crève d'ambition. Je n'ai pas connu cette dame, mais j'ai lu ses courriers. Hein, puisque les correspondances sont conservées à la mairie, c'est quand même intéressant.
Et vous avez eu accès, du coup, pour ce livre et pour vos recherches, à tous ces courriers ?
Pas tous. Je n'ai pas eu accès aux archives de l'orientation professionnelle. Elles auraient été détruites. À un moment, il faut s'arrêter aussi. Je pense qu'on en sait assez sur Juliette. Avec ce livre tel qu'il est là, ça suffit. Bon, mais donc j'ai ces courriers à la mairie au sujet des locaux, qui sont intéressants, et j'ai aussi le courrier qu'elle a envoyé à Maison-Blanche à propos de Juliette, qui n'est pas triste non plus. Donc là, elle se trouve en situation probablement d'échec, parce que sa façon de procéder ne convient pas à sa hiérarchie, probablement épuisée, probablement déprimée, et en situation de harcèlement moral. À l'époque, ce n'est pas du tout reconnu. Sa supérieure ne sait pas comment s'en débarrasser. Alors elle fait comme les fonctionnaires, quand ils veulent se débarrasser d'un fonctionnaire indésirable, elle l'envoie à la médecine du travail. La médecine du travail l'envoie en psychiatrie. Et là, elle est happée par le système psychiatrique. Sa famille n'avait rien remarqué. C'est quand même intéressant.
Mais c'est à partir de ce moment-là qu'elle est internée
Alors, elle est internée une première fois à la Salpêtrière. Ça va durer de 1 à 3 mois, selon les archives qu'on consulte. On sait, il faut garder en tête que l'hôpital psychiatrique de l'époque est beaucoup plus destructeur que positif sur l'état des malades. Elle en sort probablement plus mal qu'elle n'y est rentrée, puisqu'en plus, elle y a subi des électrochocs et une cure d'insuline qui, en plus, s'est mal passée. On ne sait pas les détails. Bon.
Oui, dans votre livre, on revient vraiment sur l'état de la psychiatrie dans les années 50.
Ah, complètement, hein. Ça vaut le coup.
On sent l'influence du 19e siècle, vous parlez d'électrochocs, de camisole.
Oui, oui.
Le psychiatre était tout puissant et craint par les patients, c'est ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais essayer d'aller vite sur son histoire. Donc, elle en sort, elle retourne à la médecine du travail, qui la déclare définitivement inapte. Et là, elle perd la tête. Enfin, elle errait sur la voie publique. Je vais vous dire, ce qu'elle faisait, c'était très grave. Quand il y avait un autobus, elle se mettait devant et elle tendait les bras pour que les enfants puissent traverser. Ça a suffi à la faire ramasser par la gendarmerie. Aujourd'hui, imaginez. Bon, les mœurs ne sont plus les mêmes. Donc, la voilà internée et qui va passer cette fois-ci dans le circuit que je n'ai pas réexploré, redécrit dans le livre, parce que tout le monde comprend avec ce qui est écrit là, ça suffit. Mais on arrive à l'infirmerie spéciale du dépôt, on est enfermé dans des cachots, on est examiné, on est dépouillé de ses vêtements, on est dans un univers totalement bizarre. Quand elle en sort, au bout d'une semaine, elle est catatonique. Effectivement, quand on regarde, puisque j'ai retrouvé le dossier médical, quand on regarde le premier rapport fait par le psychiatre à l'arrivée, elle est dans un très mauvais état. C'est clair. Bon. Une semaine après, elle a retrouvé ses esprits. On le voit bien quand on lit le dossier médical. Elle aurait dû sortir. Voilà. D'ailleurs, j'ai une parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle le docteur Michel Kerr, à qui je rends un grand hommage. C'est en même temps un psychiatre et un historien, très diplômé et en histoire et en médecine. Il est chef de service à Maison-Blanche aujourd'hui. C'est grâce à lui que j'ai retrouvé le dossier médical et il l'a expertisé. Donc lui, il dit, elle est tombée au mauvais endroit au mauvais moment. Aujourd'hui, elle resterait hospitalisée 15 jours. C'est clair.
Bon. On comprend que Juliette aurait eu une autre vie sans ce dysfonctionnement.
Ah, complètement, complètement. Ils l'ont cassé. Voilà. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'était une bonne malade. C'est ce qu'il a dit Michel Kerr. Il a regardé le dossier et il a eu un mouvement d'indignation. Il a dit c'était une bonne malade. Les bons malades, on les garde, on les fait travailler.
Voilà. Alors c'est quoi un bon malade? Ça veut dire quoi?
Un bon malade, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui ne fait pas d'histoire et qui produit beaucoup de tricots et de broderies qui vont aller enrichir les infirmières. Voilà. Parce que ça, c'est une dimension que je n'ai jamais vue citée clairement dans tous les ouvrages que j'ai lus, cette dimension de travail forcé et d'exploitation des captives par les soignants. Ça a été une surprise. Ça, je n'en avais pas conscience. J'avais bien flairé quelque chose quand j'étais gamine parce que je trouvais bizarre qu'on me dise que là, c'est les locaux de l'ergothérapie et qu'on ne voyait jamais les productions. Moi, j'allais à l'école, on nous faisait faire des travaux manuels, mais on faisait une exposition pour les parents. Pourquoi est-ce qu'on ne nous exposait pas ce qu'avaient fait les malades? Ça m'avait frappée quand j'étais petite déjà. Et alors, depuis, j'aurais plein de choses à raconter, non seulement ce qu'il y a dans ce livre, mais même en dehors.
Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez découvert ça, justement, cette situation?
J'étais très indignée, mais je veux dire, j'ai pu enfin comprendre pourquoi j'avais été aussi indignée par rapport à l'hôpital psychiatrique. Ça m'a fait du bien. Mais ça a été dénoncé, en revanche, dans un livre auquel je n'ai pas fait référence. C'est le livre du docteur Olivenstein, « Il n'y a pas de drogués heureux ». Olivenstein a été à Maison Blanche, interne, au moment où Juliette y était. Il lui a même fait une ordonnance. Dans Il n'y a pas de drogués heureux, il décrit son passage à Maison Blanche. Mais la critique est tellement féroce que je ne me suis pas appuyée dessus. J'ai préféré avancer avec le docteur Michel Kerr sur des faits, raconter simplement l'histoire de Juliette, les 6 années de sa vie qu'elle a passées à l'hôpital, à travers son dossier médical, et laisser les faits parler d'eux-mêmes. C'est le lecteur qui se fait sa propre opinion.
Voilà, et votre livre s'intitule « La disparue », c'est publié aux éditions Michalon, Catherine Naïkov. Restez avec nous dans un instant, juste après la pause musicale, on continue de parler de ce livre et de votre enquête que vous avez menée pour rendre hommage à votre marraine. A tout de suite sur Vivre FM.
Midi 13h, Vivre FM, c'est vous,
Jean-Baptiste Bergès.
C'est la suite de Vivre FM, c'est vous avec Catherine Naïkoff qui vient de nous présenter son dernier livre. Il s'intitule La Disparue, publié aux éditions Michalon, un livre dans lequel vous rendez hommage, donc à, on l'a dit, à votre tante et marraine Juliette Ropion. Vous avez mené une longue enquête pour prouver, pour comprendre ce qu'elle avait, quelle était sa maladie, alors que pendant toute sa vie, on l'a dit, très malade, et vous avez découvert des choses que vous racontez dans ce livre. On n'en dit pas plus, hein, parce qu'il y a du suspense, c'est écrit comme une enquête policière, je le conseille à tous nos auditeurs. Catherine, vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages dans lesquels vous abordez la question du handicap, des troubles psychiques. Vous avez travaillé auprès de nombreuses associations, notamment 11 ans aux côtés de Jean Vanier pour l'Arche.
Oui.
Est-ce qu'il faut voir un lien entre votre intérêt pour le handicap, les maladies psychiques et l'histoire de Juliette Ropion, votre ancêtre?
Totalement. Il y a un lien. Quand j'ai découvert l'œuvre de Jean Vanier et que j'ai lu ses livres et que j'ai vu qu'il sortait des gens de l'hôpital psychiatrique, il sortait de ce lieu maudit des gens qui n'avaient rien à y faire et qui étaient détenus dans les conditions que je connaissais, j'ai trouvé que c'était vraiment une œuvre magnifique. Et donc j'étais emballée et je suis allée voir si des personnes déficientes intellectuelles étaient, comme il le disait, douées pour la relation, intéressantes, si elles nous apportaient quelque chose. Parce qu'il en parlait tellement bien que j'ai eu envie d'aller voir si c'était vrai. Et j'ai découvert qu'ils n'étaient pas loin de chez moi. Je suis allée voir et j'y suis restée 11 ans. Voilà. Ça a été ma grosse contribution, mon gros engagement pour le handicap. J'étais au conseil d'administration de l'Arche à Paris, un établissement sanitaire et social qui, à l'époque, accueillait une cinquantaine de personnes handicapées. Il y avait 3 foyers d'hébergement, un centre d'activité de jour et un service d'accompagnement pour des personnes plus autonomes. Alors en fait, le rôle du conseil d'administration, c'était pas seulement les comptes et les subventions, c'était faire la cuisine à l'atelier, participer aux soirées, aller dîner dans les foyers, faire le chauffeur les week-ends. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec les personnes handicapées mentales.
Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience justement ?
Oh, beaucoup, beaucoup. Ça m'a apporté la richesse du cœur hein, de ces personnes. C'est énorme. Ça a changé mon regard sur la bêtise ordinaire aussi. Si je peux accepter la faiblesse intellectuelle de quelqu'un que j'aime bien, qui est dans l'Arche, mais je peux peut-être accepter la moindre faiblesse, la bêtise ordinaire de quelqu'un d'autre. Ça m'a appris à ne pas attacher tant d'importance à l'intelligence, à ne pas considérer que c'est la suprême vertu, comme tend à le faire beaucoup de gens dans notre société.
Et ça vous a inspiré aussi, ça vous a inspiré de nombreux romans. Et un roman dont on doit parler sur l'antenne de Vivre FM qui s'intitule « Pour l'amour d'Olivia », c'est publié aux éditions France Libris, une histoire d'amour entre deux personnes handicapées, justement un thème qui vous est cher. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce livre?
Oh, j'en parle toujours avec beaucoup de plaisir. Oui, en fait, pour me replacer dans le contexte, à l'époque, je faisais un petit journal pour recueillir des fonds pour l'Arche. Et j'avais pris l'habitude d'interviewer les personnes handicapées et de raconter dans chaque numéro l'histoire d'une personne. Notamment, j'avais interviewé un couple qui s'était marié et qui avait une histoire extraordinaire. Et ce livre, Pour l'amour d'Olivia, est né d'un hasard. J'étais partie faire un petit atelier d'écriture en province et je suis arrivée chez une dame que je ne connaissais pas. J'ai voulu visiter un peu le village, elle m'a emmenée et arrivée sur la place du village, toute excitée, elle a montré quelqu'un du doigt. Elle m'a dit « Tu vois, il est là, le Bredin !» Je regarde et je ne vois pas la même chose qu'elle. Moi j'ai un homme peut-être handicapé mental qui est assis sur un banc, puis je vois surtout qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui parler. Je me dis, il en a gros sur le cœur, ce monsieur qui lui parle. Heureusement qu'il y a un homme handicapé mental dans ce village pour écouter les gens qui ont besoin de parler. Puis je dis rien, puisque c'est notre hôtesse, hein. Je reste polie, mais ça reste en tête. Ce qui est que le lendemain matin, quand on s'assied sous le figuier et que l'animateur nous dit « Bon, bah maintenant, vous écrivez la nouvelle. » Je regarde, puis je la vois dans ma ligne de mire, et je me dis « Tiens, bah, je ne peux pas lui dire, mais je vais l'écrire. » Et j'ai commencé à écrire ce livre comme ça. Et d'ailleurs, un peu par superstition, j'ai gardé le début tel qu'il était. Hein, cet homme assis sur un banc. Hein, et puis, ben, c'était, je ne sais même plus le nom de cet endroit, c'était un petit village du centre de la France où il ne se passait pas grand-chose. Donc le soir, à l'hôtel, j'ai pris mon ordinateur et puis j'ai continué cette histoire. quand je suis arrivée à une soixantaine de pages, j'ai fait lire autour de moi et je me suis aperçue que les gens ne connaissaient pas du tout le sujet et qu'ils me disaient comment c'est vrai, un trisomique peut danser. Ben, oui, et même quelquefois ils dansent mieux. Alors, ils ne dansent pas mieux parce qu'on croit que les trisomiques sont des gens très bien. Les malheureux, ils ont les cartilages qui sont un petit peu mous. Alors, du coup, ils ont plus de souplesse. Mais c'est vrai que ça peut être fantastique. D'ailleurs, on l'a vu dans le 8e jour, on nous l'a montré, de voir danser des personnes trisomiques.
C'est ça aussi votre objectif à travers vos romans, c'est de dénoncer, de casser tous les préjugés, les idées reçues que peuvent avoir. Vous aimez bien ?
J'aime bien permettre aux gens de connaître d'autres réalités. Là, je vais sortir un petit peu du sujet, mais je trouve qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de communication mensongère, où on attire beaucoup notre attention toujours sur les mêmes sujets. Or, il y a des réalités dont on ne parle jamais et qui sont passionnantes à connaître. Et j'essaye justement d'avancer un peu dans ces zones-là, et le handicap en fait partie.
Alors, ce livre, il s'intitule « Pour l'amour d'Olivia », je vous le conseille aussi. On peut le trouver sur Internet aux éditions France Libris.
Oui, je vais quand même le résumer un petit peu. Vous allez voir, je fais ça très bien en 30 secondes. Hein. Et il s'agit de deux jeunes. Lui est trisomique, elle est handicapée aussi. Et ils sont profondément amoureux, y compris physiquement. Et ils demandent à former un couple. Et c'est toute une aventure. Les parents de la jeune fille ne sont pas prêts. Le tuteur du garçon est introuvable, les éducateurs sont mal. Donc on a un vrai roman avec des péripéties, des rebondissements, du suspense. C'est touchant, facile à lire et ça parle très bien du handicap mental.
Ça s'appelle, je vous ai fait ma petite publicité. Catherine Neikoff, ça s'appelle « Pour l'amour d'Olivia » aux éditions France Libris. J'aimerais revenir avant la fin de l'émission sur La Disparue.
Avec plaisir.
Votre dernier roman aux éditions Michalon, dans lequel donc, vous rendez hommage à votre marraine et vous dressez aussi un constat accablant quand même sur la pratique asilaire de l'époque.
Oui.
Je voulais remettre ça à notre époque, en vous faisant écouter le témoignage d'une personne qui a participé à notre émission qui s'appelle « La santé mentale à question hein, », qui est présentée par Anne Voileau chaque semaine. Elle a été concernée par le sujet, elle aborde son entrée en hôpital psychiatrique. Je vous propose d'écouter et on en parle juste après.
Quand j'ai compris qu'ils allaient m'hospitaliser, là, j'ai commencé à avoir les chocottes, hein, parce que j'avais déjà fait une hospitalisation avant. J'ai commencé à avoir les chocottes, j'ai essayé de m'enfuir, et il y a un infirmier donc, qui m'a barré le passage. Et c'est amusant, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une voix qui m'a dit « c'est un CRS ». Et donc, le type m'a prise, m'a attrapé le bras, m'a mise par terre, m'a traînée dans une salle de soins, on m'a baissé mon pantalon, on m'a injecté un produit qui m'a complètement shootée. Et puis, de là, je me suis tenue tranquille, je suis arrivée à Sainte-Anne. Et ensuite, la suite, en fait, j'en ai que des petits souvenirs. Je sais que j'avais pas le contrôle de mon corps, j'avais pas le contrôle de mes pensées, j'avais les yeux qui partaient dans tous les sens, j'arrivais pas à manger. Et j'étais tellement sédatée par les médicaments, ils ont dû mettre une sacrée dose. Hein, parce que je vous assure que pendant trois semaines, je ne me rappelle de rien. Je ne me rappelle de rien.
Voilà le témoignage de Charlotte qui participe à l'émission « La santé mentale en question » présentée par Anne Voileau. Catherine Neikoff, comme vous parlez de la psychiatrie au 19e siècle, au 20e siècle, qu'est-ce qu'on peut dire de la psychiatrie au 21e siècle aujourd'hui ? Elle est parfois montrée du doigt encore. Vous venez d'entendre le témoignage de cette jeune fille.
Et qu'est-ce qu'elle parle bien ?
Elle parle
bravo,
bien.
Bravo, c'est très intéressant. Ce qui me frappe, alors je connais pas bien la psychiatrie d'aujourd'hui, donc je vais pas dire des bêtises, hein. Je pense qu'il y a un peu de tout. Ce que je sais, c'est qu'en me documentant pour La Disparue, je suis tombée sur une statistique troublante. Vous savez qu'en hiver, les services sociaux ramassent des SDF qui restent dans la rue par grand froid. Mais une partie d'entre eux, visible, hein, ça nous est arrivé à tous d'en croiser, ne veut pas se faire héberger. Parmi ces gens, la moitié sont des malades mentaux à l'abandon. Ça me choque. Aujourd'hui, on est passé du tout l'un au tout l'autre. Au nom du fait qu'il ne faut pas enfermer les gens contre leur gré, ce qui est tout à fait respectable, il y a des gens qui devraient être protégés et qui ne le sont pas. Imaginez le sort de ces malheureux malades mentaux qui sont là dans les rues par grand froid, dont n'importe qui peut abuser de toutes les manières. Ce sont vraiment des victimes sur tous les plans. Et on sait ce qu'il faudrait faire. Il y a des gens qui ont tenté de les réintroduire dans des appartements thérapeutiques et tout. Mais on sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'y met pas les moyens. On ne fait pas de cela une priorité. Voilà, c'est une petite chose que je voudrais dire.
Catherine Eckhoff, donc juste pour terminer sur ce livre, La Disparue, publié aux éditions Michalon, vous nous avez dit qu'il vous a beaucoup aidé personnellement.
Oui.
En quoi ?
Mais parce que ça m'a permis voilà, de voir où était la vérité par rapport à toutes les peurs, les hésitations, les blocages que j'avais.
Parmi les peurs, est-ce que vous aviez peur de vous aussi devenir malade, devenir schizophrène ?
Ah oui, oui, oui. Oui, ça a empoisonné mon adolescence, enfin en partie. Hein. Surtout qu'il paraît, on me disait tout le temps que je lui ressemblais et je m'imaginais qu'effectivement c'était ça mon destin, d'être enfermé un jour à Maison-Blanche.
Donc du coup, en écrivant et en faisant cette enquête, ça a permis de...
Voilà, beaucoup de choses. Il y a des associations d'idées qui me sont revenues aussi. Je peux raconter l'histoire de Lucide Pracontal, cette jeune femme qui est tombée dans une oubliette le jour de son mariage et dont on a retrouvé le corps bien des années après. Et cette association d'idées, elle me fait toujours penser à Juliette parce qu'elle aussi, c'est comme si elle était tombée dans une trappe. La fatalité existe.
Ce livre s'intitule « La disparue », publié aux éditions Michalon, Catherine Eckhoff. Je le conseille à tous nos auditeurs. Est-ce que vous avez d'autres projets, Catherine ? D'autres livres que vous êtes en train d'écrire sur d'autres thèmes ?
Je préfère ne pas en parler. J'ai des idées, j'ai deux projets, j'hésite. Et pour l'instant, voilà, je préfère ne pas en parler.
Bon, vous reviendrez nous voir en tout cas lorsque vous les aurez publiés. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM. Et je rappelle pour nos auditeurs ce magnifique ouvrage qui vous fait traverser, voyager à travers le temps à la rencontre d'une héroïne oubliée. Ça s'appelle La Disparue, publié aux éditions Michalon de Catherine Eckhoff. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de Vivre FM. Au revoir.
Vivre FM, podcast.